Et il est 14h10 ici à Paris, 13h10 en temps universel et 9h10 à Port-au-Prince, l'heure de retrouver Anne Verdaguer pour votre journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Andréane et bienvenue à tous. On va d'abord évoquer l'affaire Cambridge Analytica, cette entreprise de traitement de données britannique qui est accusée d'avoir récupéré sans leur consentement les données de millions d'utilisateurs de Facebook et cela pour influer sur la campagne présidentielle aux États-Unis en 2016. Vous nous en direz plus, Romain Lemaresquier, dans votre revue de presse. Le droit à l'avortement et le débat qui s'ouvre en Argentine aujourd'hui. On verra que dans d'autres pays comme au Honduras et au Nicaragua, les mentalités n'évoluent pas vraiment. Seul le Salvador semble bouger un peu les lignes sur ce sujet. En Haïti, on retrouvera Godson Pierre d'Alta Presse pour nous parler des polémiques après la nomination au sein du haut état-major des forces armées d'anciens membres des forces armées jugés responsables dans le passé d'exactions. Et on démarre donc avec votre revue de presse, Romain Lemaresquier, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une ce mardi, les États-Unis avec cette polémique qui implique Facebook et qui plombe son cours à la bourse de New York, -6,8% hier à Wall Street.
Oui, le géant des réseaux sociaux est au cœur d'un scandale concernant l'utilisation indue des données personnelles de millions d'utilisateurs par une société liée à la campagne de Donald Trump, rappelle le Washington Post ce matin. La société en question se nomme Cambridge Analytica, elle est britannique. Ce scandale fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis et pas seulement, car cette compagnie est financée par la famille Mercer, l'une des plus riches aux États-Unis, une famille très conservatrice et proche notamment de l'ancien gourou de Donald Trump, Steve Bannon. Et les dernières révélations sur cette affaire jettent encore plus de doutes sur la campagne présidentielle de Donald Trump, excusez-moi. Le Washington Post relaye ce matin une vidéo obtenue par la presse anglaise. Il s'agit d'Alexander Nix, le directeur de Cambridge Analytica, filmé en caméra cachée. Ce dernier évoque des techniques pour piéger des rivaux politiques aux élections, notamment l'emploi de prostituées qui pourraient filmer leurs rendez-vous. Des méthodes pas très orthodoxes qui viennent encore plus ternir l'image de l'équipe de campagne de Donald Trump, qui fait d'ailleurs toujours l'objet d'une enquête fédérale, rappelle le quotidien.
Et puisqu'on parle des États-Unis, Romain, l'administration Trump a annoncé hier de nouvelles sanctions contre des responsables vénézuéliens.
Oui, 4 hauts fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la République bolivarienne ont été ajoutés à la déjà très longue liste de ressortissants vénézuéliens dont les avoirs aux États-Unis sont gelés, précise El Nacional. Les États-Unis continuent d'exercer une forte pression contre le gouvernement de Nicolas Maduro à l'approche des élections qui se tiendront en mai prochain. Et hier lundi, d'ailleurs, Donald Trump a pris de nouvelles mesures contre la nouvelle monnaie vénézuélienne.
Oui, il s'agit du pétro, la monnaie virtuelle lancée le mois dernier par le président vénézuélien Nicolas Maduro. Donald Trump a signé en effet un décret qui interdit l'utilisation de cette monnaie par les citoyens américains. Le pétro émis par le Venezuela depuis le 9 janvier dernier est basé sur les réserves de pétrole alors que le pays est soumis à des sanctions et traverse une crise économique avec une dette extérieure estimée à 150 milliards de dollars environ à Caracas. Des responsables politiques n'ont pas tardé à réagir après la décision américaine. La correspondance de Julien Gonzalez.
L'homme fort du parti chaviste au pouvoir, Diosdado Cabello, aura été le premier à condamner la décision de la Maison-Blanche avant de s'en prendre au président américain, rebaptisé pour l'occasion l'empereur Trump. Une mesure tout autant dénoncée par le ministère des Affaires étrangères, qui s'en est pris dans un communiqué à une nouvelle conspiration de la part du régime suprémaciste des États-Unis. Pour les Américains, la stratégie de cette sanction est claire, accentuer la pression sur le gouvernement chaviste après la signature par Donald Trump en août dernier d'un décret prévoyant l'interdiction d'acheter de nouvelles obligations émises par Caracas ou par la compagnie pétrolière PDVSA. Une situation de blocus financier aux yeux de Nicolas Maduro, qui avait alors décidé de lancer le pétrole le mois dernier pour obtenir de nouvelles formes de financement international. Et alors que les experts sont sceptiques quant à la crédibilité de cette monnaie, le président vénézuélien a quant à lui assuré que le pétrole avait rassemblé 735 millions de dollars d'intention d'achat le premier jour de prévente. Un optimisme qui ne semble pas miné par la décision de la Maison Blanche, puisque ce lundi, Caracas a en effet réaffirmé, je cite, sa volonté de faire du pétrole l'une des crypto-monnaies les plus solides du monde. Julien Gonzalez, Caracas RFI.
Tout autre sujet, Romain, aux États-Unis avec ce premier accident mortel impliquant un véhicule autonome, en l'occurrence de la compagnie Uber, un accident qui intervient alors que les tests de ce type de véhicule se multiplient.
Oui, et c'est justement la question que se pose ce matin le Los Angeles Times. Dimanche, une femme est décédée à Tempe, une ville proche de Phoenix, dans l'Arizona. Elle a été renversée par un véhicule autonome de la compagnie Uber alors qu'elle traversait en dehors du passage clouté, détaille l'Arizona Daily Star. Le véhicule en question était en mode autonome, selon Uber, qui a précisé qu'un opérateur se trouvait derrière le volant au moment de la collision. Le quotidien précise qu'Uber, tout comme de nombreuses autres compagnies, multiplie les phases de tests de ce type de véhicule. Outre la région de Phoenix, Uber réalise par exemple des tests à Pittsburgh, San Francisco ou encore à Toronto au Canada, des tests qui ont tous été suspendus selon Uber.
Alors Romain, est-ce que cet accident est de nature à remettre en cause ces tests ?
Eh bien c'est justement la question que se pose le Los Angeles Times. Faut-il poursuivre ces tests ou faut-il au contraire les restreindre et mieux les encadrer ? Le quotidien précise que l'Arizona est l'état le plus libéral en la matière, où les permis sont par exemple très faciles à obtenir contrairement à la Californie. Le quotidien d'ailleurs loue la politique menée en Californie où les contraintes se multiplient, les démarches également. Un état qui a conscience des implications de ce changement et qui tente de minimiser au maximum les risques. Un exemple que semblent suivre les législateurs américains puisque le Sénat résiste depuis des mois à valider une nouvelle réglementation en la matière, souligne ce matin le Los Angeles Times.
Et on termine Romain avec l'Argentine où a lieu un débat sur la dépénalisation de l'avortement avec une pression populaire de plus en plus forte.
Oui, ce débat c'est à partir d'aujourd'hui mardi que les députés argentins vont se pencher sur la question alors qu'hier des centaines de femmes dans de nombreuses localités du pays se sont rassemblées pour réclamer la mise en place de cette nouvelle législation. Un changement pas si simple à opérer dans un pays où l'Église catholique continue d'exercer une influence considérable sur la classe politique selon la Nation. Le président argentin Mauricio Macri s'est prononcé contre cette dépénalisation mais le simple fait de lancer les débats sur la question a déjà créé une crise entre son gouvernement et l'Église selon Pagina 12. Les débats risquent de durer. Pour l'instant, il est impossible de prédire quoi que ce soit selon le quotidien. À l'heure actuelle en Argentine, l'avortement est considéré comme un délit, sauf en cas de viol, de danger pour la santé de la mère ou de malformation du fœtus. Une législation que près de 60% des Argentins souhaitent voir évoluer, précise la Nation.
Merci Romain Lemaresquier. Il n'y a pas qu'en Argentine que la question du droit à l'avortement est un sujet brûlant. Dans d'autres pays d'Amérique centrale également, le Salvador, le Honduras et le Nicaragua notamment, où les mentalités restent assez fermées à l'IVG. Patrick Jeunebœuf, vous êtes notre correspondant dans la région. Y a-t-il des signes avant-coureurs d'un changement dans la législation de ces trois pays ?
Non, pas vraiment, car ils ne sont pas disposés à modifier ces lois qui interdisent toute interruption de grossesse, même en cas de viol, même lorsque la vie de la mère est en danger ou que le fœtus n'a aucune chance de survivre. Mais il y a quand même une lueur d'espoir dans un pays, le Salvador, où la justice tend désormais à se montrer un peu plus clémente. En effet, en l'espace d'un mois, elle vient de libérer deux femmes qui purgeaient des peines de 30 ans de prison. Elles avaient été accusées d'avoir avorté, alors qu'en réalité, l'une et l'autre avaient fait une fausse couche, considérant que ces avortements spontanés avaient été provoqués, les juges les avaient alors qualifiés d'homicide aggravé. En conséquence de quoi, Mayra Figueroa a passé 15 ans en prison avant que la Cour suprême ne décide de commuer sa peine la semaine dernière. Quant à Teodora Vasquez, elle est restée plus de 10 ans derrière les barreaux avant d'être libérée en février dernier. Ces deux libérations constituent désormais un espoir pour les 26 autres salvadoriennes qui restent incarcérées pour le même motif. Mais il faudrait aussi que soit modifier cette loi entrée en vigueur en 1997 déjà. Alors le problème, c'est qu'il y a forte résistance de la part de la droite et des conservateurs. Ce sont eux qui ont récemment empêché l'adoption d'un projet de loi visant à dépénaliser l'avortement pour des motifs thérapeutiques.
Patrick, qu'en est-il au Honduras et au Nicaragua ?
Alors dans ces deux pays où il est très difficile de savoir combien de femmes sont en prison pour avortement, la situation n'est pas prête de changer. Au Honduras, voilà 20 ans que l'avortement est totalement interdit, interdiction confirmée en mai dernier lorsque le Parlement a refusé d'autoriser l'avortement thérapeutique. Quant au Nicaragua, la pénalisation de l'avortement existe depuis 2006. Cette interdiction, là aussi totale, est appuyée par le président Daniel Ortega, l'ex-commandante de la révolution sandiniste, et sa femme Rosario Murillo, qui défendent le droit à la vie depuis la conception.
Alors un pays qui semble adopter une attitude un peu plus clémente avec ces femmes qui cherchent à avorter, c'est le Mexique. Qu'en est-il de la législation mexicaine sur ce sujet, Patrick ?
Alors, la loi dépend en fait de chaque État, mais tous ces États autorisent l'avortement en cas de viol. Et près des deux tiers d'entre eux prévoient l'avortement thérapeutique avec des restrictions dans certains cas. Mais des femmes en prison pour avortement, il y en a aussi, comme en Amérique centrale. Quant à la ville de Mexico, elle fait figure d'exception dans le pays, puisque depuis 2007, la capitale a totalement dépénalisé l'avortement. Les femmes qui veulent se faire avorter peuvent donc le faire légalement jusqu'à la 12e semaine de leur grossesse.
Patrick Jeunebœuf à Mexico.
Port-au-Prince. 89.3 FM.
L'actualité en Haïti à présent, où l'on retrouve Godson Pierre d'Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour.
L'état-major de l'armée récemment reconstitué en Haïti est sous le feu des critiques des organisations de droits humains et paysans dénoncent le passé de certains membres du commandement militaire.
La mise en place de ce haut état-major traduit la volonté du gouvernement de créer une armée pareille à celle du régime dictatorial des Duvaliers qui avait participé à de nombreux massacres, assassinats et coups d'État, selon Mario Joseph, avocat du Bureau des avocats internationaux. Au lieu de poser les bases démocratiques d'une vraie armée, le pouvoir en place a préféré choisir des personnalités issues de l'ancienne force armée responsable dans le passé de graves atrocités. Une des personnalités visées est Jean-Robert Gabriel, qui avait été condamné par contumace dans le procès du massacre de Raboto commis au Gonaïve dans le Nord le 16 novembre 2000. Ce militaire, dit Mario Joseph, doit être traduit en justice pour répondre de ses actes. Aucun membre du haut état-major ne serait impliqué dans des tentatives de coup d'État. C'est ce qu'a réagi le titulaire du ministère de la Défense, Hervé Denis. Le coordonnateur du collectif Défenseur Plus, Antonal Mortimer, n'est pas convaincu. Il encourage les tribunaux, la direction centrale de la police judiciaire ainsi que de l'immigration et de l'émigration à fournir des informations pour qu'une investigation rigoureuse soit menée sur les membres du haut état-major de l'armée.
Autre sujet à la une d'Alter Presse, la dilapidation des fonds Pétrocaribe. Le dossier revient au Sénat, l'enquête est en cours et plus d'une trentaine de plaintes ont déjà été déposées.
Eh bien, à l'issue de leur retraite la semaine dernière, il s'agit aujourd'hui pour les sénateurs de revenir sur le procès verbal de la séance du 31 janvier 2018. Cette séance controversée qui a abouti au transfert à la Cour supérieure des comptes du rapport d'enquête sénatoriale sur les fonds Pétrocaribe qui ont été détournés. La résolution adoptée à la retraite demande aux sénateurs de participer à la séance plénière d'aujourd'hui avec tout l'effectif nécessaire du Sénat. Depuis l'acte posé par la majorité gouvernementale au Sénat en transférant de manière jugée irrégulière le rapport Pétrocaribe à la Cour des comptes, eh bien la minorité de l'opposition a déserté les séances. Parallèlement, diverses organisations, notamment de droits humains, ne cessent d'exiger des poursuites judiciaires par les tribunaux saisis du dossier de dilapidation de plusieurs milliards de dollars des fonds Pétrocaribe.
Godson, en bref, près de 3000 migrants haïtiens ont été rapatriés vers Haïti après des menaces reçues en République dominicaine.
Le ministre dominicain de la Défense, le général Ruben Dario Paulino Sem, dresse ainsi le bilan d'une opération sécuritaire la semaine dernière à la frontière entre les deux pays. Les autorités dominicaines ont également procédé à la saisie de marchandises, de véhicules et d'armes à feu. C'est au cours de la même semaine que des centaines de ressortissants haïtiens ont été contraints de fuir Pédernal, en République dominicaine, par peur de représailles annoncées par des Dominicains suite à l'assassinat d'un couple dominicain dans la province de Pédernal, frontalière avec Haïti.
Enfin, le clip de l'hymne officiel de la Coupe du Monde de football 2018 en Russie vient d'être tourné en Haïti.
Oui, la star américaine d'origine haïtienne, Jason Joël Desrouleaux, dit Jason Desrouleaux, était durant le week-end au Cap-Haïtien dans le Nord, où il a tourné la vidéo de sa nouvelle chanson Colors, l'hymne officiel de la Coupe du Monde de football 2018 en Russie. Avant de retourner aux États-Unis, l'artiste a annoncé sa prochaine visite ici pour bientôt, afin de continuer une image positive d'Haïti.
Merci Godson Pierre d'Alter Presse, le réseau alternatif haïtien d'information que vous retrouvez à l'adresse www.alterpresse.org. Il est 9h24 à Fort-de-France, l'heure de retrouver le journal La Première Caraïbe présenté par Edwige Saint-Thomas. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, le président de la collectivité de Martinique, Alfred Marie-Jeanne, est arrivé en métropole où il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris.
Oui, il doit comparaître à partir de demain pour au tribunal de grande instance même de Paris pour un procès qui doit se dérouler jusqu'au 30 mars. L'homme politique est poursuivi en tant qu'ex-président de région pour prise illégale d'intérêts, faux, usage de faux et recel dans le cadre d'un dossier de coopération qui porte sur la construction d'une école à la Dominique en 2007 après un tremblement de terre. Le rappel des faits avec Bertrand Caruge de Martinique la Première.
L'affaire elle-même avait éclaté en 2010, suite à la large diffusion sur Internet d'un document signé du pseudonyme Green Parrot, document mettant en cause les conditions d'attribution de ce marché à l'architecte Mark Frampton, consul honoraire de la Dominique, et présenté alors comme le compagnon de Maggie Marie-Jeanne, fille du leader politique, elle qui occupait la fonction de responsable du service coopération au conseil régional de l'époque. C'est là tout le nœud de l'affaire, car après plusieurs séquences, l'enveloppe totale allouée pour la reconstruction de l'école de Portsmouth dépassait 1,5 million d'euros, soit quasiment le double du montant voté en plénière régionale, l'augmentation ayant été décidée en commission permanente. Bref, le libelle signé Green Parrot faisait comprendre que le président de région, Alfred Marie-Jeanne, avait illégalement favorisé sa fille et l'ami de sa fille.
Bertrand Caruge, toujours en Martinique, les promoteurs de Nemo, cette plateforme de production d'énergie à partir de la température de l'eau de mer, ont décidé de se défendre. Ils font face à un vent de contestation contre ce projet. Ralph Monplaisir, le maire de Case-Pilote, dénonce la dangerosité de l'ammoniac qui sera utilisé dans la production d'énergie. Les opposants au projet mettent aussi en avant le fait que l'électricité produite par Nemo coûterait jusqu'à 50 fois plus cher que le photovoltaïque. Écoutez la réponse à ce sujet d'Olivier Crémer, directeur anti-Guyane de Quano Énergie, responsable de ce projet.
Quand vous êtes sur du photovoltaïque, vous produisez uniquement quand vous avez du soleil. Ça veut dire que pour avoir la même quantité d'énergie injectée sur le réseau en une année, il faudra avoir à peu près 50 MW de photovoltaïque installés sur la Martinique. 300 millions d'euros, ça peut sembler cher. Effectivement, mais après, il faut savoir aussi quelle est la volonté, c'est-à-dire est-ce que on pourrait très bien financer 200 MW de photovoltaïque avec les 300 millions d'euros, mais 200 MW de photovoltaïque, ça veut dire couvrir plus de 250, voire 300 hectares de terre avec des installations photovoltaïques sur la Martinique.
La mise en service de cette centrale est prévue à l'horizon 2020 au large de la commune de Bellefontaine. Et puis, en bref, en Guadeloupe, cette semaine sera décisive dans la gestion de la crise au centre universitaire hospitalier. Valérie Denux, la nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé doit rendre public jeudi son plan de déménagement partiel, de nettoyage et de mise aux normes du CHU après l'incendie du 28 novembre dernier. Excellente journée.
Merci beaucoup Edwige Saint-Thomas pour la première Caraïbe. Et on termine en musique avec le multi-instrumentiste brésilien Vito Meirelles et Babilonia est extrait de son dernier album Vem Rei.
Babilônia, fenícios, pajés, tudo que escreveu foi na fé. Horizontes de luz, sim, senhor. É, 11:11, o trem já passou. Vou conectar você, toda a minha cor é lé. É, asteroides que chocam com a Terra. Trazem vidas passadas e fim. Dinossauros, anfíbios, dragões. É, células clareiam os céus. Tudo que se faz de bem. Abre alas pro nosso viver. É lei natural que vingou. Toda ação tem reação. A viagem de um ser de Noé. É Gabriel, Louis, José, Anastácia, João, Gil, Casé, Carolina, Josélia, Cardoso.
Fin de ce rendez-vous avec l'actualité d'Haïti et des Amériques. Merci à Jonathan Brady à la réalisation. N'oubliez pas notre page internet www.rfi.fr. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne journée à tous.
Mundo livre, todos corações.
archanges, anges, ruissons.
RFI, la sélection du mois.
Camille Berthaud.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Voilà maintenant que je fais le beau quand elle me sonne.
Oh babe, come on.
The break.
Life's too short to stay in a shell. Give your love, jolie mademoiselle. Oh my pretty baby, you so belle. This world needs love, ain't hard to tell.
Hey, everybody give your love, give your love.